Un jour au village. Penaï Traoré, Nathalie Laporte.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Un jour au village. L'accès à l'eau potable et aux dispositifs d'hygiène et d'assainissement, notamment des latrines, reste encore un défi pour beaucoup d'écoles en milieu rural. Un manque qui perturbe la scolarité de nombreux élèves. En Mauritanie, le projet Karama, qui veut dire « dignité » en arabe, leur permet d'avoir des latrines et des points d'eau potable à disposition. Un changement bénéfique pour leurs résultats scolaires. Nous en parlerons avec Youssouf Hassen, directeur de l'école du village d'Agor dans la région du Haut-Chargi, et Samba Niang, chef de projet eau potable et assainissement au Grète en Mauritanie, une ONG intervenant sur différentes thématiques. Mais d'abord, la parole est au radio partenaire de RFI. Direction Lokusa, au sud-ouest du Bénin, à environ 110 km de Cotonou, la capitale. Radio Mono, la voix de Lokusa, est le média local. Il tire son nom du fleuve Mono qui traverse la région. L'économie et la gouvernance locale sont entre autres les sujets sur lesquels elle travaille. Nous sommes avec le directeur de cette radio. Bonjour Wilfried Sénon.
Bonjour Traoré.
Quels sont les problèmes rencontrés par les habitants de votre région?
Bon, actuellement, les problèmes qui se posent aux populations, c'est surtout les problèmes d'assainissement, hein, parce que dans notre région ici, on n'est pas très loin du fleuve Mono que nous partageons sur environ 40 km avec le Togo voisin. Lorsqu'il y a abondance de pluie, il y a que les populations sont victimes donc des inondations. Et on a besoin quand même d'assainir un peu le cadre de vie puisque l'eau envahit tout, l'eau détruit tout sur son passage. Et c'est tout un recommencement. Même les voies d'accès aux champs sont souvent dégradées, sont dans des états très critiques. Les gens ont des difficultés à circuler, à se rendre donc sur les lieux de travail. Et ça s'accompagne souvent aussi avec des maladies hydriques. L'eau étant polluée, c'est la même eau que les gens consomment. L'environnement étant pollué, donc il y a ces problèmes qui s'accompagnent aussi avec les problèmes d'inondation et les problèmes d'accès aussi aux soins parfois. Le personnel n'est pas aussi d'abord de qualité et en nombre suffisant. Une prise en charge n'est pas souvent adéquate en fonction des besoins des communautés. Donc voilà un peu les difficultés que vivent, je vais dire, les populations. Et en dehors de ça, il y a la charité de la vie qui est devenue le lot quasiment quotidien depuis plusieurs années.
Vous avez tantôt parlé des problèmes d'assainissement en période hivernale. Que faudrait-il faire pour résoudre cette situation?
Bon, l'exigence à faire s'active chaque année pour apporter des solutions, mais jusque-là, on a vu des solutions précaires parce qu'à chaque inondation, les mêmes problèmes reviennent. On avait vanté les mérites d'un projet de réalisation d'un pont sur le fleuve Mono. Le pont a été fait, mais ça n'a pas arrêté le phénomène. C'est dit qu'on n'a pas encore trouvé la solution idéale. Et la grosse question, c'est comment maîtriser l'eau, en fait. L'eau est en source de vie, mais parfois, l'eau devient une source de malheur, de danger pour les communautés parce que les dégâts que cela cause sur son passage sont évalués à plusieurs dizaines de millions. Vous voyez, quand du jour au lendemain, vous vous réveillez, vous constatez que votre lit est déjà dans de l'eau, vos bêtes sont abattues par l'eau ou que vos cas sont déjà détruites par l'eau, les champs sont inondés, les récoltes donc sont plombées, il n'y a plus d'espoir. Ça crée comme conséquence directe la famine et les réflexions sont toujours en cours pour qu'on trouve les solutions vraiment idoines qu'il faut pour sortir de cette situation.
Merci beaucoup Wilfried Sénon.
C'est moi, Traoré. Merci, au revoir.
Pour écouter la radio Mono, la voix de Lokusa, rendez-vous sur 106.7.
Un jour au village.
Nous sommes aujourd'hui en Mauritanie pour parler d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire dans les zones rurales. Beaucoup d'enfants n'ont pas accès aux besoins de base d'une bonne hygiène, à savoir l'eau et des latrines. Ils sont ainsi privés d'un environnement scolaire sain, favorable pour l'apprentissage à l'école, surtout pour les filles quand elles ont leurs règles. Dans la région du Haut-Chargi, commune du Mekvé en Mauritanie, des écoles ont eu la chance de bénéficier de latrines et d'eau. C'est le cas du village d'Agor. Le directeur de cet établissement primaire, Youssef Hassen, revient sur les dispositifs dont dispose son école.
On a bénéficié des constructions de 2 latrines pour les filles. Et aussi, on a bénéficié de dotations de 2 cuves de l'eau, de 400 litres de chacun. et aussi dotation de 5 DLM, c'est-à-dire des dispositions de lavage des mains. Et aussi, on a bénéficié de formation des enseignants sur les bonnes pratiques d'hygiène en milieu scolaire, et aussi en mise en place d'un club d'hygiène et la formation de ce club, et aussi dotation de kits d'assainissement et d'hygiène. Et aussi, récemment, le 15 octobre, on a célébré ici la journée mondiale de lavage des mains dans l'école.
Youssouf Hassan, qu'est-ce que tout cela a changé dans le bien-être des élèves de votre école?
Tout ça a permis aux élèves de se sentir à l'aise à l'école grâce à ces dispositions-là. Les classes sont propres et les conditions de vie sont meilleures. Ça se ressent sur les résultats parce que l'année passée, le taux de réussite s'est tellement élevé parce que les cours-là, ça s'est passé dans de bonnes conditions. C'est tout de 80% de réussite, tous les niveaux.
Avant que votre école ne bénéficie de tout ce dispositif d'assainissement et d'hygiène, comment les élèves se débrouillaient-ils quand ils avaient envie, par exemple, d'aller aux toilettes?
Avant, les élèves faisaient leurs besoins dans les rues ou derrière les murs. Mais grâce à l'intervention du Grec, tout ça s'est changé. Maintenant, les latrines sont disponibles, les élèves font leurs besoins dans les latrines et tout se passe bien.
Merci beaucoup, Youssouf Hassan.
Merci beaucoup, madame. C'est très gentil.
Vous écoutez RFI, Benaï Traoré.
Vous venez d'entendre Youssef Hassen, le directeur de l'école d'Agor dans la wilaya du Haut-Chargi. Il nous expliquait les avantages pour ses élèves d'avoir à disposition de l'eau potable et des toilettes propres. Tous les établissements de la région ne sont pas équipés d'infrastructures d'hygiène. Si cette école a pu en bénéficier, c'est grâce au projet Karama lancé il y a 2 ans par le GRET, une ONG intervenant dans plusieurs pays et dans divers secteurs du développement. Nous sommes avec le chargé de projet Eau potable et assainissement. Bonjour Samba Niang.
Bonjour, Ben Traoré.
De quoi s'agit-il dans le projet Karama en Mauritanie?
En fait, le projet Karama, c'est un projet multisectoriel financé par l'Union européenne à hauteur de 4 millions d'euros dans la zone de Bassiklou au niveau de 2 communes, la commune de Fassala et la commune de Magba. Le projet intervient sur la sécurité alimentaire et moyens d'existence, la santé, l'éducation et la protection, l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement ainsi que la santé. Voilà en gros les domaines d'intervention du projet. C'est un projet qui a démarré en 2023 et qui prendra fin normalement en janvier 2026.
Il y a un aspect particulier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui sur lequel vous intervenez, l'aspect hygiène et assainissement dans les écoles. Pourquoi le GRET a-t-il intégré ce volet-là dans ce projet?
Alors, comme vous le savez, le GRET intervient en Mauritanie depuis 1993 sur des projets autres que l'eau et l'assainissement, mais surtout sur la thématique eau, hygiène et assainissement. Le GRET est connu en Mauritanie dans ce domaine. D'ailleurs, on a eu plusieurs projets dans ce domaine au niveau d'autres localités. Mais au niveau du Haut-de-Chargi ici, on a vu qu'il y a un gros manque, en fait. Après avoir fait des études, nous avions remarqué qu'il y a beaucoup de manques sur la partie eau, hygiène et assainissement, aussi bien en milieu scolaire que dans les postes de santé et au niveau de certaines localités. Donc, le GRET s'est positionné pour essayer, tant bien que mal quand même, de résoudre certains problèmes liés aux aspects WASH.
Quels besoins avez-vous constaté dans les écoles, dans les zones rurales, en termes d'hygiène et assainissement, après cette étude-là?
Alors, après cette étude, en fait, on a une étude qu'on appelle le PCHA, qui veut dire Plan communal hydraulique et assainissement, qu'on a réalisé au niveau de toutes les localités d'intervention. Et sur les résultats qu'on a trouvés, nous avions vu qu'il y avait trop de manques dans les écoles surtout, en termes de couverture en latrine, en termes de séparation aussi, 6 garçons pour les latrines. Il y avait aussi des manques d'eau et surtout, il n'y avait pas de normes d'hygiène qui sont adoptées au niveau des écoles. Donc, nous avions jugé nécessaire d'intervenir au niveau scolaire pour pallier à ces problèmes de manque d'eau, de manque d'hygiène et surtout de manque de toilettes, spécifiquement surtout pour les filles aussi.
En quoi consistait votre intervention, l'intervention du GRET?
Alors, l'intervention du groupe du GRET dans le cadre global du projet, c'est de contribuer à améliorer durablement les conditions de vie des populations hôtes, réfugiées et retournées. Pour rappel aussi, on est dans une zone où il y a beaucoup de réfugiés qui viennent du Mali et aussi des populations mauritaniennes qui sont retournées du Mali. Donc, ils sont tous bénéficiaires du projet. En fait, c'est d'améliorer durablement les conditions de vie à travers des réalisations et des campagnes de sensibilisation. En gros, nous réalisons des réseaux AEP, des réseaux d'addiction d'eau potable dans certaines localités. Mmh. Et au niveau scolaire aussi, nous construisons des toilettes spécifiquement destinées pour les filles. Nous intervenons dans 18 localités au niveau des deux communes. Donc voilà, nous construisons des latrines, nous mettons en place tout ce qui doit favoriser quand même l'hygiène au niveau scolaire. Et aussi, toutes les localités où nous intervenons, nous avons mis en place des systèmes d'addiction d'eau potable dans les écoles à travers des branchements, des réserves d'eau au niveau des écoles. Pas mal de réalisations quand même liées au volet wesh en fait. Voilà.
Sambanian, quand on parle d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire, il y a une spécificité pour les filles. Avez-vous tenu compte de leur hygiène menstruelle?
Oui, non seulement dans ce projet, mais dans d'autres projets. On a des animatrices qui sont un peu spécialisées dans ce domaine, qui font des sensibilisations sur l'hygiène menstruelle, qui font même des fois la distribution des serviettes hygiéniques au niveau des écoles pour les filles de 12 à 15 ans, les filles qui sont en âge de procréer, qui sont dans les écoles. C'est un problème aussi pour les filles au niveau de l'école primaire, c'est nouveau pour eux. Mmh. Ça perturbe un peu aussi leur scolarité parce que durant la période des menstrues, il y a des filles qui ne viennent pas à l'école et tout ça, parce qu'il n'y a pas de dispositif adéquat au niveau des écoles. Donc nous essayons de pallier à ces problèmes à travers les sensibilisations effectuées par les animatrices et éventuellement des distributions de kits pour l'hygiène menstruelle au niveau des écoles.
Est-ce que cette question de l'hygiène menstruelle des filles est quelque chose qui est facile à aborder dans une société où la religion est très prégnante et où les traditions sont vraiment très ancrées, surtout en milieu rural?
Effectivement, c'est pas facile, vu que c'est une question un peu taboue quand même au niveau rural. Mais nous essayons quand même avec les animatrices. D'abord, nous avons des activités de sensibilisation que nous menons indépendamment des écoles, mais au niveau communautaire, avec l'accompagnement des personnes ressources au niveau de chaque communauté, l'association des parents d'élèves qui est un peu concernée par ça, des fois même les imams des mosquées et les localités où il y a des postes de santé aussi, nous faisons appel aux sages-femmes ou aux infirmiers qui sont en place pour nous appuyer dans ces activités. C'est pas facile, mais le message passe. Même au niveau scolaire aussi, on a des enseignants qui sont un peu formés sur l'approche concernant l'hygiène en gros et l'hygiène menstruelle. Donc eux aussi, ils font toujours des leçons modèles pour les élèves, pour leur expliquer c'est quoi les menstrues, les périodes, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Donc il y a des animatrices qui travaillent avec nous, qui sont un peu spécialisées dans le domaine.
Vous écoutez RFI, un jour au village.
Sambanian, est-ce que vous avez constaté un changement depuis que le projet a commencé dans ces écoles-là?
Alors, un changement, je dirais bien oui. C'est un changement quand même au niveau global, pas seulement dans le cadre de l'hygiène menstruelle, mais de l'hygiène en général, au niveau des écoles, parce qu'au début du projet, il n'y avait rien sur l'hygiène et tout ça. Mais après 2 ans de mise en œuvre, nous remarquons quand même qu'il y a eu des changements. Les enfants n'adoptaient pas les mesures de barrière contre les périodes fécales, par exemple le lavage des mains au savon, l'utilisation correcte des latrines et tout ça. On a senti que depuis qu'on a mis en place tout le nécessaire, la construction des latrines, la distribution des kits et tout ça, qu'il y a eu des changements quand même. Maintenant, même les élèves qui veulent se soulager ou autre sortaient de l'école pour aller chez eux, le faire et revenir. Et maintenant, ils ont tout le nécessaire au niveau de l'école, aussi bien en termes de couverture en latrine, d'eau potable en milieu scolaire, de distribution de kits d'hygiène et d'hygiène menstruelle aussi. Donc, il y a un gros changement quand même qui se fait sentir au niveau des écoles. Certes, le projet n'est pas encore fini, mais on a eu d'autres projets dans ce cadre où il y a eu quand même des changements notables. Voilà.
Et cela a un impact aussi sur le résultat scolaire de ces élèves?
En tout cas, au dire des directeurs d'école, il y a eu beaucoup de changements dans leur école. Tu sais, on a mis en fait un paquet d'activités dans chaque école. L'EGRET vient mettre en place tout ce qui a trait à l'hygiène, l'eau et l'assainissement. Mm. Mais on a les partenaires aussi de Save Children qui sont avec nous dans le cadre du projet, qui interviennent plus sur l'éducation et la protection. Donc, eux aussi, ils distribuent des livres, des sacs et tout ça. Ils font même des cours de rattrapage. Donc, il y a eu un gros changement quand même qui se fait sentir au niveau de ces écoles depuis l'arrivée du projet.
Samba Nyong, vous avez dit que le projet prend fin en 2026. Que se passera-t-il après? Est-ce que les écoles seront en mesure de poursuivre?
Alors là, c'est une très bonne question parce que on travaille dans le cadre du projet, mais on essaye aussi de mettre en place des mécanismes, surtout pour la pérennité des activités. Par exemple, dans chaque école, on a un club d'hygiène scolaire qu'on a mis en place, composé d'un enseignant, d'un membre du bureau des parents d'élèves et de 3 élèves de l'école, donc qui sont chargés de veiller sur aussi bien l'hygiène que la propreté des latrines, est-ce qu'il y a du savon, est-ce que les DLM ont de l'eau et tout ça. Donc, c'est des comités d'hygiène qui sont un peu élargis. Et il y a surtout toujours un membre du bureau des parents d'élèves pour s'occuper s'il y a des petites réparations à faire, des latrines gâtées ou des manques de matériel d'hygiène et tout ça. Donc, les parents d'élèves sont un peu sensibilisés dans ce domaine pour qu'eux, ils continuent à prendre le relais, même si le projet est fini. Nous, actuellement, on fait juste des suivis avec nos animatrices pour voir est-ce qu'il n'y a pas de soucis, est-ce que tout se passe bien. Donc, c'est les clubs d'hygiène scolaire qui continuent un peu les activités après le projet. Voilà. Mais nous, quand même, on essaye de faire tout pour qu'il y ait une pérennité des actions réalisées dans le cadre du projet.
Nous arrivons au terme de cette émission, mais avant de vous dire au revoir, nous avons une tradition. C'est demander à nos invités de partager un proverbe de chez eux avec nos auditeurs. Quel est le vôtre, Monsieur Nyang?
Ah, ça, c'est la question piège de la fin. Moi, je dirais bien un proverbe de chez nous que j'aime bien et qui est même un peu en lien avec nos activités. C'est un proverbe peul de chez nous. Tchelal weni afongalou. Ça veut dire que la santé est la mère des richesses. Sans la santé, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'activité. Donc, ça rejoint un peu nos activités, nous, ce que nous faisons. En milieu scolaire, en fait, c'est toujours dans le cadre de la santé et du bien-être des enfants. Donc, comme on dit, la santé est la mère des richesses.
Et vous apprenez cette richesse-là aux enfants dans les écoles en Mauritanie. Voilà. Merci beaucoup.
Effectivement. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes chef de projet eau et assainissement au GRET en Mauritanie. Très bonne journée à vous.
Merci. Bonne journée à vous aussi.
Un jour au village était aujourd'hui en Mauritanie. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation de cette émission que vous pouvez réécouter sur RFI.fr et sur l'application Pure Radio. On se quitte avec Tamat, extrait du premier album du groupe Nusantarabit. Le titre Tamat parle des complexités de l'amour moderne sur fond de musique surf et funky. Prenez soin de vous et bonne semaine à tous.